les rois Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakiza avec vous dans cette édition du mardi 8 mars 2022. Au sommaire, célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la femme.
Je fais de la peinture, des banderoles, des portraits et je forme aussi les jeux.
En RDC, 18 civils ont été tués dans deux attaques de milices en Ituri. Le président Joe Biden annonce un embargo sur les importations de pétrole russe aux États-Unis en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Des milliers d'Ukrainiens tentent de quitter leur ville bombardée ou encerclée par les forces russes. Le nombre de réfugiés ayant quitté le pays depuis le début de l'invasion a franchi les 2 millions. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème que l'ONU a choisi pour célébrer la Journée internationale de la femme. Plusieurs activités ont été organisées à travers le monde pour fêter les victoires et les acquis des femmes et faire entendre leurs revendications pour améliorer leur situation dans différents domaines. Le point avec Nanit Sylvanine Talani.
En Tunisie, plusieurs associations, organisations et personnalités nationales ont dénoncé la privation de plusieurs femmes rurales de leur droit à l'héritage par abus des hommes dans leur famille. Au Cameroun, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts a organisé des ateliers d'automisation des femmes. Les formations ont porté sur la transformation des matières premières en savon liquide, celle de la mangue en confiture, celle du manioc en farine pâtissière et celle de la tomate en jus de tomate et en ketchup. La Côte d'Ivoire, elle, a innové cette année avec des activités éclatées ciblant des jeunes dans divers domaines. Les mots « droits des femmes » écrits sur le pagne sont censés symboliser l'union et la solidarité des valeurs qui permettent de développer la culture de la diversité et l'égalité de chance. Au Nigeria, lors d'un briefing, la ministre des Affaires féminines, Dame Pauline Talen, a félicité les femmes du monde entier et en particulier les femmes nigérianes pour leur immense contribution à la cohésion sociétale et au développement national. Au Pakistan, quelques milliers de femmes se sont rassemblées dans les grandes villes pour la défense de leurs droits. Plusieurs femmes pakistanaises sont tuées par balles ou brûlées pour avoir sali l'honneur de leur famille. En Afghanistan, par contre, les militantes féministes ont été plus discrètes, vivant dans la crainte d'être arrêtées ou détenues par le nouveau régime taliban.
Les victimes de violences sexuelles en Côte d'Ivoire font encore face à de nombreux obstacles, dénonce mardi un rapport de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH. Si la Côte d'Ivoire apparaît comme un étant investi dans la lutte contre les violences sexuelles et basé sur le genre, il est difficile d'évaluer l'efficacité de sa politique, tant les données relatives aux violences sexuelles semblent être sous-estimées, pointe le rapport. Des dizaines de Mauritaniens ont manifesté mardi devant la présidence à Nouakchott pour réclamer la fin d'exactions commises, selon eux, au Mali par l'armée malienne contre des compatriotes. Ce rassemblement a été organisé à la suite de la disparition d'un certain nombre de Mauritaniens présumés se trouver au Mali. Les manifestants ont accusé l'armée malienne d'être à l'origine de ces disparitions. Des pancartes brandies par les manifestants affirmaient que les soldats maliens avaient tué les Mauritaniens de sang-froid et réclamé vengeance. Des milliers de manifestants anti-putsch ont protesté aujourd'hui à Khartoum contre le pouvoir militaire sous les tirs de grenades lacrymogènes, peu après l'arrestation d'un opposant, a indiqué le parti d'opposition Alliance Unioniste dans un communiqué. Le parti au pouvoir pendant plus d'une décennie en Guinée a engagé la succession d'Alpha Condé en désignant un chef provisoire à sa tête. Les dirigeants du Rassemblement du Peuple de Guinée RPG ont choisi lundi Ibrahima Kasseri Fofana pour présider un conseil exécutif provisoire en attendant la tenue d'un congrès dont la date n'est pas fixée, indique un document interne consulté aujourd'hui par l'AFP et un responsable s'exprimant sous couvert d'anonymat. M. Fofana, fidèle de M. Condé, a été son premier ministre de mai 2018 jusqu'au coup d'état militaire qu'il a déposé le 5 septembre 2021. L'accession de M. Fofana à la direction du RPG tournerait encore davantage la page Condé. Le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni et commandant de l'armée de terre, a annoncé aujourd'hui sa retraite militaire à l'âge de 47 ans, suscitant des spéculations sur une possible ambition présidentielle aux élections de 2026. 18 personnes ont été tuées mardi par une milice dans le nord-est de la République démocratique du Congo, dont 12 dans l'enceinte d'une paroisse catholique où elle s'était réfugiée. Des précisions de John Lyndon.
Selon Jean-Pierre Bassiloko, président de la société civile du secteur de Banyali-Kilo, des miliciens Codeco ont tué 12 personnes dans la paroisse catholique de Kilo, où se trouvaient des déplacés ayant fui les violences dans un village voisin. Des militaires sont intervenus et étaient encore sur place à la mi-journée dans cette paroisse qui héberge un millier de déplacés, a indiqué un responsable ecclésiastique. Selon M. Bassiloko, les miliciens avaient d'abord attaqué une position de l'armée congolaise près de cette paroisse où ils se sont dirigés après avoir été repoussés par les militaires. La milice Codeco est un groupe armé structuré autour d'une secte religieuse. Ils prétendent défendre la tribu Lindou, une des communautés de l'Ituri, face à l'armée et à la tribu Emma. D'après les Nations Unies et les autorités congolaises, ces miliciens sont à l'origine de la plupart des violences actuelles à l'Ituri, surtout dans sa partie nord depuis fin 2017. Dans cette zone, les miliciens Codeco détiennent depuis le 16 février 8 émissaires, dont un général de l'armée envoyé par le président Félix Tshisekedi pour négocier la paix.
Au moins 57 combattants d'une milice d'autodéfense ont été tués dans le nord-ouest du Nigeria dans des combats avec un groupe criminel, ont affirmé mardi à l'AFP une source sécuritaire et 2 habitants.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, rompant pour la première fois le front uni avec les Européens en matière de sanctions contre la Russie, Joe Biden a annoncé une interdiction des importations aux États-Unis de pétrole et de gaz russe, principale source de revenus du régime de Vladimir Poutine. Le président américain subissait une intense pression politique pour prendre cette décision. Le point avec Ginny Kapumbu-Villa.
S'exprimant à la Maison-Blanche, le président Biden a affirmé avoir pris cette décision en concertation avec les alliés. Il a dit qu'il comprendra si certains d'entre eux ne sont pas en mesure de se joindre à cette initiative. L'objectif commun, souligné le chef de l'exécutif américain, reste d'accentuer la pression sur Poutine. Joe Biden a averti ses compatriotes qu'il y aura un prix à payer pour cet embargo sur le pétrole russe, mais que les démocrates et les républicains sont unanimes qu'il fallait prendre cette mesure. Les Américains devront s'attendre à payer un peu plus cher le carburant à la pompe à la suite de cette décision, a fait savoir le président Biden, qui a toutefois mis en garde les compagnies pétrolières contre toute tentative d'augmenter de manière excessive les prix à la pompe. Cette crise nous rappelle la nécessité d'être indépendant sur le plan de l'énergie, a déclaré le président Joe Biden. Au plan humanitaire, le président des États-Unis a appelé le Congrès à approuver une enveloppe de 12 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine. Il a promis aux alliés que les États-Unis partageront le fardeau des réfugiés ukrainiens.
Des milliers d'Ukrainiens tentent de quitter leur ville bombardée ou encerclée par les forces russes, alors que le nombre de réfugiés ayant quitté le pays depuis le début de l'invasion continue d'augmenter. Le point avec Rosine Mounezer.
La barre des 2 millions de personnes fuyant les combats en Ukraine pour trouver refuge à l'étranger a été dépassée mardi, seulement 12 jours après le début de l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine, selon les derniers décomptes de l'ONU. Des civils ont commencé à évacuer mardi la ville ukrainienne de Soumy, située à 350 km au nord-est de Kiev, près de la frontière russo-ukrainienne, bombardée la veille. Au moins 21 personnes ont été tuées lundi soir dans des frappes aériennes russes contre cette ville, selon un nouveau bilan des autorités ukrainiennes. La Russie a annoncé lundi soir la mise en place mardi matin de couloirs humanitaires dans 5 métropoles particulièrement exposées. Mais la plupart des voies d'évacuation passent par la Russie ou le Bélarus voisin, allié de Moscou, option inacceptable pour Kiev. Le gouvernement britannique a annoncé que l'établissement d'un deuxième centre de demande de visa pour les réfugiés ukrainiens était en cours dans le nord de la France, mais que celui-ci n'était pas encore ouvert. Mardi, L'ONU a dénoncé les arrestations par milliers en Russie d'opposants à la guerre lancée en Ukraine par le président Vladimir Poutine.
Le numéro 2 du Vatican a affirmé mardi la disponibilité du pape François à tout faire pour la paix en Ukraine au cours d'un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lindon.
L'économie sud-africaine a enregistré une croissance de 4,9% en 2021, la plus importante depuis 2007 selon les statistiques officielles publiées mardi. Ce rebond doit être nuancé selon l'Agence sud-africaine des statistiques par deux derniers trimestres moins bons en raison de mesures de confinement plus strictes imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 et d'une vague d'émeutes survenue en juillet. Les transporteurs routiers marocains observent depuis lundi une grève de 72 heures selon les sources syndicales. Ceci pour protester contre la flambée des prix de gazoil, conséquence de la guerre en Ukraine. À Casablanca, la mégapole économique, le tarif du litre d'essence sans plomb approchait les 13 dinars, soit environ 1,20 euros, tandis que l'indispensable gazoil dépassait 11 dirhams, soit un peu plus d'un euro, des prix qualifiés de record dans le pays.
Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo dans votre page sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Nous commençons avec la Basketball Africa League dont la deuxième édition a débuté le week-end écoulé à Dakar au Sénégal avec les matchs de la Conférence Sahara. Les équipes entament leur deuxième sortie ce soir à la Dakar Arena. Les Sénégalais de Dakar Université Club et les Mozambicains de Ferroviário da Beira s'affrontent tout à l'heure à 21h temps universel. Perdant lors de leur première sortie, Sénégalais et Mozambicains se lancent donc dans une opération relance pour leur deuxième match dans cette Basketball Africa League. Lors du premier match, Duc a bien démarré la rencontre, remportant les deux premiers quart-temps, avant de sombrer face au Slack supérieur au troisième et quatrième quart-temps. Cette fois-ci, les Sénégalais devraient pouvoir garder une fraîcheur physique jusqu'au bout pour espérer venir à bout des Mozambicains qui ont connu le même sort que devant l'US Monastir lors de leur première sortie dimanche. Gagner pour espérer atteindre les play-offs, tel est le maître mot pour Duc, dont les fans ont fait preuve d'optimisme avant le début du tournoi.
Le Duc, c'est une équipe qui a beaucoup d'âme, parce que c'est une équipe qui a des supporters, les étudiants sont là. Mais je pense que pour la première, le Duc va venir pour découvrir un peu cette compétition.
Au niveau africain, dire qu'on va rivaliser, c'est trop dire, parce que pratiquement, il y a beaucoup de pays où ils ont un championnat typiquement professionnel, avec des joueurs professionnels. Mais ce qu'on retient, c'est que le Duc est champion du Sénégal, donc il y a une base qui est là, et on a un bon niveau de championnat au niveau du Sénégal.
Et moi, je pense que le Duc, au mieux, peut faire la même chose que l'AS Douane, essayer de se qualifier au quart de finale, ce qui n'est pas très, très difficile. Je pense que le Duc participe à cette compétition tout simplement pour la découverte et peut-être l'appétit vient en mangeant. Si les matchs vont venir petit à petit, l'équipe un peu va prendre de l'ampleur et va monter en puissance.
Football, la finale de la Coupe du Cameroun qui oppose PWD de Bamenda à Astre de Douala se tient ce dimanche 13 mars au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé. Le début du championnat professionnel Elite One aura lieu le mercredi 16 mars 2022. C'est la présidence de la République qui a confirmé cette date dans une correspondance adressée au ministère des Sports, d'après notre correspondant à Yaoundé. Et puis, Ligue des Champions ce soir en Europe, accroché en Autriche à l'aller 1-1. Le Bayern Munich peut se méfier de Salzbourg en huitième de finale au retour. Les hommes de Julian Nagelsmann ont été contraints de partager les points à domicile samedi. Dans l'autre rencontre, Liverpool des Africains, Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keïta et Joël Matip, qui restent sur 7 victoires consécutives en championnat, s'attend à une forte résistance de l'Inter de Milan du portier camerounais André Onana à Anfield. Les Reds ont 2 buts d'avance sur les Italiens.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo. We'll be right back.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Au Tchad, les activités marquant la Journée internationale de la femme et la Sénafed, la Semaine nationale de la femme tchadienne, ont été bouclées aujourd'hui. Durant toute la semaine dernière, les femmes des institutions étatiques et associatives se sont relayées pour se faire entendre à travers des manifestations socioculturelles. Durant toute la semaine dernière, les femmes des institutions étatiques et associatives se sont relayées pour se faire entendre à travers des manifestations socioculturelles. André Kodmangar, correspondant de VOA Afrique, s'est intéressé aux difficultés que rencontrent les femmes du secteur informel pour leur survie. Son reportage.
Je fais de la peinture, des banderoles, des portraits et je forme aussi les jeux. Je ne peux pas estimer combien ça me rapporte parce qu'on vit avec des jours au jour. Quoi. C'est avec ça que j'ai acheté ma moto, c'est avec ça que j'ai nourri mes enfants. Et dans ce métier, ce n'est pas facile de se lever un bon matin comme ça et puis gagner quelque chose. Il faut toujours la persévérance.
Madame Daman, peintre de formation, elle explique au micro de VOA Afrique son parcours et son projet à moyen terme.
J'ai un oncle là, c'était un peintre. Et à la maison, quand il y a des choses à faire, on faisait le pochoir avec lui et c'est comme ça que j'ai aimé le métier. Au début, ce n'était pas facile. Parce que quand j'avais commencé ma formation à l'artisanat, j'avais fini. Je suis allée faire le stage avec un peintre. Mais or, c'était un peintre bâtiment. Alors, j'étais obligée de faire la peinture bâtiment avec lui. Les hommes venaient pour me regarder quand je montais sur l'escabeau pour travailler. On me décourageait toujours, quoi. Et après ça, je suis allée au Burkina. J'ai fait 4 ans là-bas. Quand je suis revenue, j'ai ouvert mon atelier. Mon projet à l'avenir, c'est vraiment de m'asseoir et essayer de former les jeunes et vulgariser mon art.
Un autre groupe de femmes qui ne savent ni lire ni écrire se tourne vers le secteur informel. Elles affirment pouvoir gagner leur vie et exhortent leurs sœurs à faire autant.
Je remercie Dieu. Avec mon commerce, je mets deux fois. Je prends en charge ma famille aussi et mes enfants. Pour le moment même, j'ai envoyé mon fils en études. Je conseille à mes sœurs de se débrouiller, quoi. Rester à la maison sans rien faire, là, c'est pas bon. Comme nous les autres, on se défend nous-mêmes. Je dis à mes sœurs de ne pas déranger leur mari à cause du 8 mars. Il faut que les femmes même sortent pour aller chercher et puis aider leur mari.
Pour Diane Abbey, artiste et musicienne, la femme tchadienne joue un rôle très important dans la société traditionnelle, mais elle estime qu'elle est sous-estimée par certains hommes.
Dans le milieu artistique, j'étais la première fille DJ à être formée par l'Institut français. Et quand j'ai commencé par jouer sur la platine, certains artistes tchadiens disent non, quand une fille est DJ, c'est une prostituée. On s'est fait de tout, quoi.
S'appuyant sur son propre exemple, elle plaide pour l'autonomisation des femmes, pour leur prise en charge.
Avec la comédie, je m'en sors très bien parce que moi, je fais l'hôtellerie. De fois, quand je postule dans les restaurants et que je ne suis pas vite employée, je peux jouer une séance et gagner facilement 100 000. La femme, c'est elle qui donne l'éducation. La femme, elle fait beaucoup de choses à la maison, mais toujours, elle n'est pas respectée. Donc, si la femme, elle est autonome, elle se prend en charge, elle prend ses décisions, elle éduque bien ses enfants.
La Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2022 se célèbre sur fond de crise politique et institutionnelle. Politique parce que les autorités de transition chancellent encore dans le processus de l'organisation du dialogue national inclusif pouvant jeter les bases d'une refondation de la nation tchadienne. Crise institutionnelle suite aux conflits intercommunautaires qui ont endeuillé plusieurs familles dans les provinces du Wadaï et du Moyen-Chari et dont les parents et avocats des victimes attendent que justice soit rendue. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Alors que les autorités célèbrent la journée des droits des femmes à Rumonge, au sud du Burundi, des Burundaises luttent pour donner à manger à leurs enfants. Dans les rues de Bujumbura, elles vendent des légumes, fruits et autres produits vivriers pour joindre les deux bouts. Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura, est allé à la rencontre de ces femmes.
Dans le quartier de Mutanga Sud, en commune de Mukaza Bujumbura, Belize Chimwe, mère de deux enfants, 22 ans, se concentre sur son petit commerce d'avocats et reconnaît être contente de la célébration de cette journée spéciale des femmes, même si son quotidien est difficile, avec un capital journalier de moins de 2 dollars américains.
Quand c'est le 8 mars, nous sommes très contentes, mais je n'oublie pas mes problèmes d'argent. Personnellement, j'achète des avocats pour 2000 francs burundais, équivalent de 1 dollar américain. Je les vends par pièce. Certains jours, je peux les vendre tous, d'autres jours, pas du tout. Mais je m'arrange pour que mes enfants aient à manger quotidiennement. Ces avocats sont vendus sur cette route. C'est juste le début car je n'avais pas de capital suffisant. Et j'avais emprunté 2000 francs burundais pour commencer.
Belize Ishimwe n'aurait augmenté son capital pour accroître ses revenus. Jeanne Nilitanga, elle, 38 ans, élève seule ses quatre enfants et vit dans une maison d'une chambre sans toilette dans le quartier Mugoboka. Son mari l'a abandonnée il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle s'adonne corps et âme au pilage et à la vente des feuilles de manioc tant prisées à Bujumbura.
Je n'ai personne pour m'aider, même pour avoir le capital. Pour commencer à vendre ces feuilles de manioc appelées isombe, c'était difficile. Je vis des dettes quotidiennes. Pour vendre ces feuilles de manioc, de temps en temps, je le fais dans les rues, souvent dans les parcelles des maisons mitoyennes pour que mes enfants survivent. C'est vrai, nous vivons difficilement avec mes enfants. On peut entendre dire souvent que c'est la fête des mamans. Mais moi, personnellement, je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas d'argent pour m'asseoir avec ces autres mamans. J'écoute le début et la fin de cette fête sans y participer.
L'ancienne journaliste Annick Nsabimana est aujourd'hui activiste des droits des femmes, en même temps gestionnaire d'une entreprise de communication et de production visuelle. Elle s'efforce d'assister les femmes et les filles nécessiteuses.
L'aide que nous essayons d'apporter consiste en fait à sensibiliser d'abord ces femmes pour qu'elles s'organisent en association ou en coopérative. Quand elles s'organisent en association ou en coopérative, elles sont formées sur comment lever des fonds, comment tenir une activité génératrice de revenus, comment gérer leurs revenus, faibles revenus, mais comment savoir les gérer. Donc l'éducation financière aussi, comment ouvrir des comptes bancaires. Quand elles s'avalisent mutuellement, elles peuvent avoir accès au crédit. Alors c'est dans ce sens-là que nous sensibilisons beaucoup les femmes de ne pas travailler isolées, mais d'essayer de se retrouver en groupe de femmes.
Brigitte Chimri-Manael est représentante légale d'un réseau de filles victimes de violences et d'injustices sociales. Elle a créé un centre d'entraide dans la commune urbaine de Ndrangwa au quartier Kamenge. Son objectif principal, accompagner les jeunes filles et femmes.
Nous essayons d'aider les femmes les plus vulnérables, c'est-à-dire ces genres de femmes qui courent toujours avec des paniers sur la tête, qui vendent des oranges, des tomates, des avocats. Nous avons décidé de créer un espace à Honawe pour garder ces enfants, parce que des fois c'est difficile de courir avec des paniers, mais aussi courir avec deux enfants, l'un au dos, d'autres dans les mains. C'est comme une garderie temporaire. Donc ce n'est pas un orphelinat, mais c'est juste pour les aider. Il y a quelques fois que les agents de sécurité les empêchent de rester en ville. Et comme elles n'ont pas même les moyens pour louer une place pour travailler, ils sont toujours dans la rue. Donc notre contribution d'abord, c'est de les garder leurs enfants. Et après, on leur donne des formations pour qu'ils puissent savoir comment gérer les petites activités.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Hier lundi, les cours ont repris dans les écoles sénégalaises après plus de 3 mois de grève des enseignants. Ces derniers ont levé leur mot d'ordre de grève après que l'État a promis une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards de francs CFA pour satisfaire leurs doléances. Cependant, l'incertitude plane autour des modalités de cette reprise. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Après plusieurs semaines d'âpres négociations, les syndicats d'enseignants et l'État du Sénégal ont trouvé un terrain d'entente pour mettre fin à la grève. Mais même s'ils ont décidé de reprendre les cours, les enseignants restent prudents en attendant l'application des accords. Saoul Sen, secrétaire général du SAEMS, l'un des principaux syndicats d'enseignants, précise que le mot d'ordre est suspendu pour le moment.
Conformément à la demande des enseignants, parce que au niveau des enseignants du moyen secondaire, avec les organisations du SAEMS
l'université du QCEMS. Nous avions demandé au gouvernement de nous permettre de partager mais les propositions avec nos bases. Et la base nous a instruit de suspendre le mot d'ordre. Voilà pourquoi nous l'avons suspendu.
Cette grève, qui a duré un peu plus de 3 mois, a mis à rude épreuve le moral des élèves et de leurs parents. Tchernonia explique que ses enfants ont vécu des moments difficiles.
Les petits ont beaucoup souffert car pendant presque 2 mois, ils n'ont pas pu aller à l'école. Et pendant ce temps, les écoles privées poursuivaient leurs cours. D'ailleurs, ils m'ont fait la remarque à plusieurs reprises. Et c'était vraiment difficile pour moi de leur donner une explication convaincante, car moi-même, j'avais peur d'une année blanche. Cette situation était vraiment difficile et inexplicable. Heureusement que la situation est résolue. Maintenant, nous implorons aux enseignants de se donner corps et âme pour encadrer les enfants, parce qu'il ne reste que 4 ou 5 mois.
Les parents d'élèves comme Mohamed Fall espèrent, eux, que les accords seront respectés et que ce genre de situation pourra être évité à l'avenir grâce à une meilleure entente entre l'État et les syndicats d'enseignants.
Vraiment, je suis soulagé parce qu'il y a un instant, je pensais que vraiment l'année scolaire était déjà perdue. Mais bon, tout est bien qui finit bien. On ne peut que ça féliciter, remercier Dieu et demander aux enseignants d'assister nos enfants et demander à l'État aussi d'assister les enseignants pour que ça puisse aller de l'avant.
Une entente encore fragile qui est déjà mise à l'épreuve par le nouveau calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation. Les fêtes de Pâques sont réduites et l'année scolaire prolongée de quelques semaines, une décision que regrettent les syndicats d'enseignants. Sourousen, SGE du SEMS.
Nous avons été surpris par la décision du ministère parce qu'on aurait dû, encore une fois de plus, dans la dynamique de la pacification, partager ses propositions avec les organisations syndicales. Mais nous avons vu le calendrier comme tous les Sénégalais. Maintenant, quelle sera la réaction des professeurs? Nous ne pouvons pas pour le moment l'envisager. Mais l'essentiel est qu'il était clair que le calendrier devrait être aménagé compte tenu des heures perdues. Cela ne signifie pas pour nous une cause, mais une co-construction avec le ministère.
De son côté, le ministère de l'Éducation affirme avoir suivi les directives récentes du président de la République en procédant au réajustement des programmes et au réaménagement du calendrier scolaire qui s'étend maintenant jusqu'à la fin du mois de juillet 2022. Sidina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a défendu lundi sa position de neutralité sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, appelant à des pourparlers et non à une condamnation. Ses adversaires ont critiqué le gouvernement pour n'avoir pas soutenu l'Ukraine contre son voisin. Sur place, des observateurs estiment que l'Afrique du Sud a préféré mettre en avant ses intérêts politiques et économiques dû au lien historique avec Moscou. Un reportage de Linda Givetash à Johannesburg avec le récit d'Abdelrahman Dia.
La négociation, plutôt que les armes ou la pression économique, c'est le mécanisme que le président sud-africain Cyril Ramaphosa souhaiterait voir utilisé pour régler le conflit russo-ukrainien. La position inébranlable de Ramaphosa, réitérée hier lundi, a enterré un précédent appel du ministère des Relations internationales du pays demandant à la Russie de retirer ses forces. Lisa Jungberg est chercheuse indépendante et consultante en diplomatie basée à Johannesburg.
Au département de relations internationales et de la coopération qui est en grande partie le diplomate de l'Afrique du Sud, le réflexe initial était de dire « ce n'est pas acceptable ». Et c'est ce qui a été en quelque sorte retiré par le président qui est préoccupé par les alliés et la Russie. Et donc même en Afrique du Sud, la position sud-africaine est très contestée, même au sein du gouvernement.
Les liens de l'Afrique du Sud avec la Russie remontent aux années 60, lorsque l'Union soviétique a apporté son soutien aux combattants de la lutte anti-apartheid. Au cours des années, des politiciens, y compris ceux du parti au pouvoir, le Congrès national africain, ont gardé des liens étroits avec la Russie. C'est pourquoi les analystes disent qu'il n'est pas surprenant qu'une fondation dirigée par l'ancien président Jacob Zuma ait exprimé son soutien au russe Vladimir Poutine. Richard Calland est professeur de droit public à l'Université du Cap.
Poutine avait une relation très étroite avec notre ancien président Jacob Zuma. C'était une relation corrompue. Selon la justice, il a alimenté un marché illégal, l'approvisionnement illégal à l'énergie nucléaire russe, que les tribunaux ont arrêté. Et je crains que cela interfère au moins avec certaines positions politiques en Afrique du Sud. Mais je ne crois pas que ce soit la raison directe de la position prise par l'Afrique du Sud.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À la présentation, Eric Mandela-Kiza. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.